Bonjour monde. Ça fait plaisir de me retrouver avec vous autres. Ça fait 2 ans que j'ai pas pris la parole devant le groupe de Foi et Partage, même si je préside les Eucharisties assez souvent. Livrer la parole, donner un enseignement, c'est pour moi une responsabilité. Une responsabilité parce que d'une part, on peut pas dire n'importe quoi. D'autre part, faut dire des paroles qui sont compréhensibles, qui ont du sens, et qui apporte quelque chose à la personne qui entend. Cette année, le thème, c'est l'espérance. Et il va y avoir, tout au long de l'année, différents enseignements qui vont entourer, qui vont cerner ce que c'est que l'espérance. Sur le feuillet de Foi et Partage, vous avez les différents enseignements qui vont être donnés. Aujourd'hui, j'aurais le goût de commencer par nous poser certaines questions. Qu'est-ce que c'est au juste que l'espérance? L'espérance, qu'est-ce que ça fait dans ma vie? C'est quoi au juste? Qu'est-ce que ça fait? Ça donne quoi l'espérance? Comment est-ce qu'on peut vivre concrètement l'espérance aujourd'hui, dans mon quotidien? Comment est-ce que on peut témoigner de l'espérance? Ce sont là des questions qu'on se pose peut-être pas d'une façon claire comme ça toujours, mais quand on parle de l'espérance, c'est important d'avoir ça en tête. Ça donne quoi l'espérance? Le matin, quand on se lève, on peut se demander ça. Je l'ai dit, l'espérance, c'est-tu utile à quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose juste pour moi ou bien non, c'est pour les autres? De quelle façon j'en témoigne? C'est un peu à ce genre de questions que je vous invite à réfléchir avec moi, avec l'aide et comme en présence de l'Esprit-Saint, comme le rappelait Jean-Claude. Il y a une chose qu'il n'a pas dite et que je vais vous dire. L'Esprit-Saint, moi j'en ai eu besoin depuis l'année passée que je sais que je fais ça. Mais peut-être ceux et celles qui en ont plus besoin présentement, c'est vous autres. Quand je fais des homilies, il y a souvent des gens qui viennent me dire « Telle parole que vous avez dite, c'est comme si c'était pour moi, je me suis reconnu là-dedans. » Bien souvent, moi, je ne connais même pas la personne qui vient me dire ça. Mais c'est là qu'elle est l'action de l'Esprit-Saint. Une parole qui est dite et qui, à un moment donné, nous rejoint. J'ai déjà rencontré des gens qui me disaient « Durant les sermons, Monsieur l'abbé, à un moment donné, je suis distrait. » Puis là, je dis distrait par quoi? Est-ce parce que vous êtes mis à compter les lampions en avance? Non, mais vous avez dit quelque chose, puis là, j'ai pensé à ça, puis j'ai pas suivi le restant. Mais j'ai dit, après ça, c'est revenu. Ah oui. Quand ça nous arrive, c'est pas parce qu'on est distrait, c'est parce que l'Esprit-Saint nous rejoint par telle parole. Et si cette expérience-là vous est arrivée, vous vous rendez compte qu'au moment où ça arrive, bien sûr que vous décrochez de ce que le curé en avant il dit. Mais quand vous revenez à l'homélie, vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu quelque chose, vous reprenez le fil là où il est rendu. Un enseignement comme celui de ce matin, c'est sur le même modèle. Il va y avoir à un moment donné des paroles qui vont vous rejoindre, et vous allez être amené à réfléchir à cela intérieurement. Puis vous allez revenir après ça et vous n'aurez pas l'impression d'avoir manqué grand-chose. Si, à la fin de l'enseignement, vous réalisez que vous n'avez pas manqué grand-chose, là, ça va m'inquiéter. Mais si, durant l'enseignement, ça vous arrive, j'ai pas de problème avec ça, c'est l'Esprit-Saint qui vous parle. Première chose, on pose la question, c'est quoi l'espérance? Quand on se pose une question comme celle-là, on va voir une définition. Et le livre, pour voir la définition, tout le monde le sait, c'est le dictionnaire. Alors, je suis allé dans le dictionnaire, le petit Robert, qui est menteur, parce que c'est le petit Robert, mais il est gros comme ça. Mais on ne l'appelle pas le gros Robert, parce que ça se vendrait moins bien. Je suis allé voir dans le gros Robert. Je suis allé voir dans le petit Robert. Et je vais vous lire la définition. Espérance, non féminin, on s'en doute un peu. Sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Un sentiment, donc c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on pense, qui nous fait entrevoir comme probable, on se dit « ça va probablement arriver », la réalisation de ce que l'on désire. Je vais vous donner des exemples bien simples, pas compliqués, pour illustrer ça. Gagner à la loto. Si j'ai pas de billet, j'espérerai pas de gagner. Et je me dirai pas que ça me laissera pas entrevoir au prochain tirage comme probable la réalisation de ce que je désire, gagner à la loto. Si je m'achète un billet, il y a peu d'espérance, parce que c'est peu probable que la réalisation de ce que je désire, gagner à la loto, se réalise. Mais il peut y avoir une petite espérance. Exemple de quelque chose de probable. Probablement que tout au long de la semaine, vous vous êtes dit, peut-être depuis déjà un bon bout de temps, j'ai donc hâte de venir à la rencontre de Foi et Partage pour voir André Breton. J'ai donc hâte. Et, à ce moment-là, il y a de l'espérance, parce que vous avez le sentiment qui vous fait entrevoir comme probable la réalisation de votre très, très grand désir. Le texte que l'on prend pour aujourd'hui, c'est en Romains 8, 14, je pense, peu importe. Et l'exemple que je vous donne, ce dernier exemple, nous fait comprendre ce qui est dit dans la dernière partie du texte. Voir ce que l'on désire, ce n'est plus l'espérer. Vous voyez ici en avant l'objet de votre désir, moi-même. Donc, vous ne m'espérez plus, je suis là. Mais il y a plusieurs jours, vous vous disiez, j'espère qu'il va être là, s'il peut être là. Ça, c'était de l'espérance, parce que vous n'étiez pas en présence de l'objet que vous désiriez. Je pense qu'avec ça, on comprend un peu c'est quoi l'espérance quand on dit que c'est un sentiment qui nous fait entrevoir comme probable l'objet de notre désir. Voilà pour ça. Cette définition de l'espérance, on la retrouve chez tous les humains. Que peu importe leur religion, peu importe leur voile, peu importe leur soutane, leur barrette, leur mitre, n'importe quoi, tous les humains, c'est pareil. Mais à ce moment-là, on peut se demander, c'est quoi la différence pour un chrétien, une chrétienne, l'espérance? Qu'est-ce que l'espérance a au juste de différent pour un chrétien, une chrétienne? On peut dire aussi, l'espérance chrétienne, ça s'appuie sur quoi? Mon livre de référence, comme le vôtre, je n'en doute point, c'est la Bible. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on aille dans la Bible pour voir c'est quoi l'espérance chrétienne. Et je vous invite à aller rendre visite à trois personnages en particulier. Trois personnages que vous connaissez très bien. Quand je vais vous dire les noms, si vous les connaissez, vous ferez un signe de tête et ça va me rassurer. Le premier, c'est Noé. Connaissez? Bon. Le second, Abraham. Et le troisième, Moïse. Pour voir comment l'espérance arrive dans la vie de ces hommes de la Bible, comment est-ce qu'elle l'éclot, sur quoi elle s'appuie, on va regarder leur histoire à chacun. Et c'est avec Noé, Abraham et Moïse qu'aujourd'hui, je vous présente le thème une espérance, l'espérance. Une espérance, c'est-à-dire celle de Noé, qui va devenir l'espérance de bien du monde. Une espérance, celle d'Abraham, qui va devenir l'espérance du peuple de Dieu. Une espérance, celle de Moïse, qui avait été demandé par le Seigneur Dieu pour libérer son peuple. L'espérance de Moïse devient l'espérance du peuple libéré de l'esclavage. Pour rendre visite à ces personnages et en tirer le plus de profit possible, je vais suivre un fil conducteur. Je vous le donne tout de suite, mais au fur et à mesure, je vais vous le dire. Le premier point, ce sera de voir comment est-ce, qu'est-ce qui se passe avant la manifestation de Dieu auprès de Noé, Abraham, Moïse. Qu'est-ce qui se passe avant la rencontre de Dieu? Le deuxième point du fil conducteur va nous amener à nous pencher sur la rencontre entre Dieu et l'homme, Noé, Abraham, Moïse et aussi nous autres. Troisième point qu'on va voir, c'est qu'à chacune de ces rencontres-là, il y a une promesse que Dieu fait, il y a un engagement qu'il prend. Et cet engagement qu'il prend, il le signe. Vous savez, c'est quoi signer un papier? Il le signe par une alliance. J'ai déjà travaillé dans la Beauce. Est-ce qu'il y a des gens de la Beauce ici? Je ne veux pas vous faire choquer. Jusqu'à maintenant, est-ce que c'est clair? Jusqu'à maintenant, est-ce clair? Ça va? Si jamais ça ne va pas, vous levez la main, vous posez une question et je vais trouver quelqu'un pour y répondre. L'histoire de Noé. Vous connaissez tous l'histoire de Noé. Je vais vous la raconter brièvement, histoire de nous la remettre en tête. Dans le temps de Noé, Dieu regardait le monde sur la terre. Et il s'est aperçu que le monde était pas mal méchant. C'était pas drôle ce qui se passait sur la terre. À un point tel que Dieu s'est dit, je regrette d'avoir créé le monde. C'est pas ça que je voulais faire du tout. Je vais les détruire et on repart à neuf. C'est en fait cette image-là que Dieu regarde ce qui se passe et il trouve un homme qui était juste avec sa famille, qui était bon, qui n'était pas méchant, Noé. Alors Dieu apparaît à Noé et lui fait part de ce qu'il réalise, puis il dit « Noé, t'es mon homme. Voici ce que tu vas faire. Tu vas te bâtir un arche, 3 étages. C'est moins gros que les bateaux de croisière qui actuellement au quai 21 et 22 à Québec. Mais un arche, 3 étages. 3 étages. Et puis, après ça, je vais te dire quoi faire. Alors, Noé, il pose pas de questions. Noé bâtit l'arche, et quand l'arche est bâtie, le Seigneur Dieu, Yahvé, dit à Noé, maintenant, monte dans l'arche. Puis, avec ta femme, tes fils, leurs femmes, puis toutes les bébites sur la terre. Bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un petit déluge, qu'il n'y a pas personne qui va s'en sortir. 40 jours, Noé. Arme-toi de patience. Et pendant 40 jours, Noé était dans l'arche, le déluge, puis torrentiel, la vague du vent. Ce que ça nous dit, c'est que Noé a fait confiance à Dieu. Il a été éprouvé dans sa confiance. Quand on est dans une arche pendant 40 jours, qu'il pleut avoir deux bouts, et qu'il peut y avoir de la vague et du vent, il y a de quoi à se demander si vraiment nous autres aussi on va s'en sortir. Et peut-être que Noé s'est dit pas trop fort pour pas énerver les autres dans l'arche, dans quel bateau je me suis embarqué en suivant le conseil de Dieu. Mais sans doute aussi qu'il s'est dit, oui, mais si j'étais pas dans l'arche, je serais pas nulle part. La rencontre avec Dieu, ce qu'il a dit à Noé, ça suscite son espérance. En s'appuyant sur la parole de Dieu, Noé avait l'espérance de s'en sortir, avait l'espérance, en ayant confiance à Dieu, que Dieu réaliserait l'engagement qu'il a pris. Et l'histoire nous dit que c'est ce qui s'est passé. Quand Noé est sorti de l'arche, Dieu a voulu donner un signe à Noé que son espérance n'était pas vaine et qu'elle était valide, valable, non seulement pour lui, mais pour la suite des temps. Et vous savez, si vos souvenirs sont bons, quel était le signe que Dieu a donné à Noé, ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, aujourd'hui encore, quand ça arrive habituellement toujours après de la pluie, on regarde l'arc-en-ciel et on dit, tiens, il ne pleuvra plus, la pluie est finie. Et c'est habituellement ce qui se passe. Et Dieu a voulu faire de l'arc-en-ciel un signe de son alliance avec Noé et avec la terre tout entière. De sorte que, il dit à Noé, « Quand je verrai ce signe dans le ciel, je me rappellerai que je m'engage à ne plus détruire par le déluge l'espèce humaine. » Et c'est ce signe d'alliance sur lequel Noé s'est engagé, ce qui lui a permis d'espérer que quoi qu'il advienne, Dieu, lui, ne détruirait plus la terre. C'est l'espérance de Noé. L'espérance de Noé, comme les autres que l'on va voir, c'est que elle nous amène à réaliser que quoi qu'il advienne, malgré nos méchancetés, Dieu ne nous détruira pas. Il s'est engagé à cela. Quand on regarde le monde dans lequel aujourd'hui, nous sommes mis à l'épreuve, notre espérance est mise à l'épreuve concernant cet engagement de Dieu. Actuellement, la planète est en danger. On le dit, on le répète. On peut se dire, oh ben pour nous autres, il n'y a pas de danger, parce que rendu à mon âge, moi, en 2050 puis 2100, je vais être mort depuis longtemps. Et peu importe ce qui arrivera, on peut se dire ça. Mais ça peut être désespérant des bouts. Où trouver l'espérance? L'espérance, on la trouve dans les engagements que des gens prennent pour nous sensibiliser, pour nous aider à poser des petits gestes, ne pas jeter notre plastique, nos verres de plastique dans la poubelle. De préférence, ne pas boire de l'eau dans des bouteilles de plastique. C'est un peu pour ça que j'apporte celle-là. Elle sert beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas l'acheter. Toutes des petites choses comme celle-là qui nous amènent, en posant des gestes, à redonner un peu d'espérance. Et quand on multiplie ça par tout le monde, le plus de monde possible, bien, c'est l'engagement qu'on peut prendre et qui nous permet d'espérer que quoi qu'il advienne, il va toujours y avoir quelque chose de bien qui va se passer. Deuxième personnage. Un personnage intéressant, je dirais peut-être plus intéressant que Noé. Abraham. Abraham, c'était un homme juste, comme on le voit dans la Bible. Un homme juste, c'est-à-dire un homme qui était accordé en harmonie avec Dieu. Et avant de rencontrer Dieu, avant que Dieu le rencontre, Dieu avait un projet, un plan. Il voulait se choisir un peuple et se choisir une terre pour ce peuple-là. C'est ce qu'il dit à Abraham. C'est Abraham, tu vas être le père d'une multitude, tu vas avoir des enfants et tu vas guider mon peuple vers une terre promise. Ce qu'il demande à Abraham, c'est quelque chose d'assez spécial. Quitte ton pays, Ur, la ville où était, c'était Ur. Dans les mots croisés, ça existe. Quitte ton pays. Et là, il lui donne le trajet où aller. Quand je regarde Abraham, Moïse, Noé, je pense tout de suite au thème de notre retraite. Avance en eau profonde. Ce que Dieu a demandé à Noé, à Abraham et à Moïse, c'est, en quelque sorte, d'avancer en eau profonde, de faire quelque chose qui les dérange, de faire quelque chose qui les amène à sauter, en quelque sorte, dans le vide, et à le faire uniquement parce qu'ils ont confiance en Dieu, et que Dieu leur promet, s'engage à les soutenir, à les accompagner, quoi qu'il advienne. Et c'est ça qui alimente leur espérance. Abraham a eu toutes sortes d'épreuves. Bien sûr qu'il a eu un fils, Isaac. Mais à un moment donné, le Seigneur lui a demandé d'immoler son fils unique, le seul fils qu'il avait. Pour Abraham, c'était toute une épreuve dans sa foi, dans sa confiance en Dieu, parce qu'il y avait comme une contradiction entre ce que Dieu lui avait dit au début et ce que Dieu lui demandait à ce moment-là. Mais malgré cela, il a continué à avoir confiance en Dieu. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Quand est venu le moment ultime d'immoler son fils, l'ange du Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur lui-même, a arrêté son bras. C'est peut-être une forme imagée, mais ça permet de comprendre, comme Dieu l'a fait, combien était grande la foi d'Abraham. Quoi qu'il advienne, Abraham a toujours eu confiance en Dieu. Et c'est la foi qui nourrissait son espérance. Il savait que Dieu avait pris un engagement. Et quoi qu'il lui demande, Dieu ferait son plan et réaliserait sa promesse. On va passer à la foi, à l'espérance de Moïse. Moïse, c'est vraiment spécial. Moïse, son nom veut dire « Je l'ai sauvé des eaux ». Vous connaissez aussi son histoire. Moïse, le peuple égyptien, où se retrouvaient les Hébreux, proliférait. Et à un moment donné, le Pharaon a eu peur, parce qu'il s'est dit « Ils sont tellement nombreux que s'ils décident de se liguer contre nous autres, c'est sûr qu'ils vont gagner ». Alors, il avait donné des ordres. Quand viendra au monde un fils chez les Hébreux, on devait le tuer. En ce qui regarde Moïse, sa mère et sa sœur ont décidé de le sauver, d'aller le poser dans un espèce une corbeille en jonc. Qui a dit ça? Merci beaucoup. Une corbeille en jonc, à l'épreuve de l'eau. Et la fille de Pharaon qui allait se baigner sur le bord du Nil a trouvé la corbeille de jonc avec le bébé dedans. Et elle s'est rendue compte que c'était un bébé d'Hébreu, mais elle a décidé de le garder. Puis elle l'a appelé Moïse, qui veut dire « sauver les eaux ». Moïse a été élevé chez le Pharaon égyptien, il a grandi. Mais à un moment donné, il a réalisé que son peuple était opprimé, massacré, maltraité dans l'esclavage. Et à ce moment-là, il avait même tué un Égyptien qui maltraitait un Hébreu en sa présence. Quand Dieu lui apparaît au buisson ardent, Dieu lui dit, « J'ai vu, j'ai compris la misère de mon peuple, et je t'ai choisi pour le sortir de l'esclavage d'Égypte. » Moïse, c'est pas Noé, c'est pas Abraham. Il pose des questions. Moïse commence par dire, « Je vais aller voir ma feuille parce que ça vaut la peine. » Alors Moïse commence par donner ses raisons. « Qui suis-je, moi, pour aller trouver Pharaon et lui dire, « Fais sortir le peuple hébreu d'Égypte, que je l'amène dans le désert. Je suis qui, moi, pour ça? » Alors Dieu dit, « Voici un signe, je serai avec toi, voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit, « C'est bien beau ça, quand vous serez sortis d'Égypte. Mais moi, quand je vais aller trouver mon peuple pour leur dire, le Seigneur Dieu m'est apparu, ils vont dire, mais c'est qui qui t'a parlé, comment, c'est quoi son nom? Et le nom que Dieu a dit, je suis celui qui suis, Yahweh. Je suis celui qui suis, peut-être ça ne nous dit pas grand-chose. Moi, j'ai compris un peu mieux c'était quoi, quand Pierre-René Côté, que vous connaissez tous, a expliqué un peu en développant, qu'est-ce que c'est « je suis celui qui suis ». Je suis celui qui suis, c'est-à-dire « je suis celui qui suis », et tu vas voir qui je suis. Tu vas voir, tu vas comprendre qui je suis vraiment, quand tu vas voir ce que je fais, ce, les gestes que je pose. Moïse a une autre objection. Il dit, « Excuse-moi, mais je ne suis pas doué pour la parole. » Moïse, il bégayait. Alors, il dit, « Moi, je ne suis pas doué pour la parole. Tu devrais demander à un autre pour parler, parce que moi, je ne suis pas bon là-dedans. » Le Seigneur lui dit, « Va maintenant, n'aie pas peur. Je serai avec ta bouche et je te dirai quoi dire. » Moïse dit, « Excuse-moi, Seigneur, mais j'aimerais mieux que tu en envoies un autre. » Un autre, n'importe qui que tu voudras, ça ne choquera pas, je ne serai pas froissé. À ce moment-là, la colère de Yahvé s'enflamme contre Moïse. Puis il dit, c'est correct. C'est ton frère Aaron qui parlera pour toi au peuple. Mais c'est à toi que moi, je vais m'adresser. Vraiment, Dieu y tenait. Il ne voulait pas lâcher. Et alors, c'est ce qui s'est passé. Tout au long de sa vie, Dieu parlait à Moïse dans la tente de réunion, une tente, un camping. Dieu parlait à Moïse sur le mont Sinaï, mais c'est Aaron qui transmettait les dires de Moïse qui avait reçu la parole de Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, « Je vais libérer mon peuple de l'esclavage d'Égypte. » Mais là encore, il y en a eu des épreuves. Moïse espérait bien que ça se passerait de même. Mais les épreuves qu'il y a eues, quand il a réussi à faire sortir le peuple, il arrive à la mer Rouge, coincé. En avant, une mer pas capable d'être franchie, puis en arrière, l'armée de Pharaon qui s'en venait parce qu'il regrettait ce qu'il avait fait. Et là, Moïse a eu son espérance éprouvée. Et le peuple a dit, « Mais c'est bien beau, tu nous dis qu'on a Yahvé, ton Dieu, il nous fait sortir, mais là, c'est peut-être juste pour nous faire mourir plus vite. » Dieu avait dit à Moïse, « Le bâton que tu as entre les mains, tu vas avoir à t'en servir. » Et Moïse, à ce moment-là, là, je reviens un peu en arrière, dit, « Oui, ce bâton-là, Dieu dit, c'est ton signe, c'est le signe que je te donne de ta puissance. Jette-le à terre. » Moïse jette le bâton à terre. Ça devient un serpent. Et Moïse recule et le Seigneur Dieu reprend-le par la queue et en le reprenant, surdevenu le bâton. C'est pour ça qu'on représente souvent Moïse avec un bâton dans les mains. Rendu à la mer Rouge, c'est ce que le Seigneur lui a dit. Frappe la mer avec ton bâton. Et à ce moment-là, comme nous le raconte la Bible d'une manière imagée, mais qui a certainement été un vrai souvenir dans le cœur du peuple hébreu, la mer s'est fendue en deux, le peuple a pu passer. L'armée de Pharaon qui suivait, eux autres, Moïse a frappé à nouveau sur la mer et elle a englouti l'armée au complet. Moïse a vu à travers cette épreuve son espérance grandir. Rendu au désert, le peuple s'est mis à avoir faim et à avoir soif. Et il récriminait contre Moïse. Il n'était pas de bonne humeur après Moïse. Moïse a dit au Seigneur, qu'est-ce que je vais faire, là? Tu nous amènes au désert, c'est bien beau, mais si c'est pour mourir. Le Seigneur a dit, je vais vous envoyer quelque chose à chaque matin et vous mangerez ça va être correct. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans, des vitamines, des protéines, tout. Quand les Hébreux ont vu ça, ils se sont demandé, qu'est-ce que c'est ça? En hébreu, que c'est ça? Ça se traduit par man-ou. Que c'est ça, c'est man-ou. Nous autres, on a traduit ça par man. Et pendant tout le temps du désert, ils ont mangé la manne, qui les a gardés en vie. Mais à un moment donné, ils ont eu soif. Et là, ils ont récriminé contre Moïse. Ils étaient dans le désert, il faisait chaud. Le Seigneur, il dit à Moïse, « Frappe le rocher avec ton bâton, puis je vais en faire jaillir de l'eau. » Moïse a eu un doute. Là. Et au lieu de frapper une fois sur le rocher, il a frappé deux fois. Et le Seigneur lui a dit, « T'as pas eu confiance en moi totalement. La punition que je te donne, tu rentreras pas, toi, dans la terre promise. Mais tu vas conduire le peuple jusqu'aux portes de la terre promise. » L'espérance de Moïse, sa confiance en Dieu a été mise à l'épreuve, mais Moïse a toujours espéré quoi qu'il advienne. Si on regarde maintenant nous autres, à partir des trois personnages dont je viens de vous parler. Dans notre vie, on a tous besoin, à un moment donné ou l'autre, de beaucoup d'espérance. Il y a des situations où ça va vraiment mal. Et on se pose juste comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir. On a la même expression à ce moment-là que Noé. « Veux-tu bien me dire sur quel bateau je me suis embarqué? Comment je vais faire pour m'en sortir? » Les images, les paroles qui nous aident à reprendre l'espérance, nous les retrouvons dans le Nouveau Testament. Parce que Noé, Abraham, Moïse étaient dans l'Ancienne Alliance. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, celle instituée par Jésus. Et quand on regarde dans l'Évangile, il y a beaucoup de paroles de Jésus qui sont là pour raviver notre espérance, pour nous amener à espérer contre toute espérance. La brebis perdue est retrouvée. Ça m'est déjà arrivé, peut-être à vous autres aussi, de me sentir vraiment perdu. Perdu à cause de gestes posés, de paroles dites. De me sentir isolé, seul. Désespéré, en quelque sorte. Comme la brebis perdue. Malgré qu'elle désespérait, la brebis perdue espérait tout de même que le berger viendrait la chercher, la secourir. Et quand il est arrivé pour la secourir, son espérance a grandi. Parce que la confiance qu'elle mettait dans son berger n'a pas été déçue. Le Seigneur, notre Dieu, ne nous déçoit jamais. Et nous ne devons jamais perdre confiance en lui. Il trouve toujours le tour, lui le bon berger, de revenir nous prendre là où nous nous sentons perdus et de nous redonner les forces pour continuer à progresser et avancer. Et je pense que chacune d'entre nous qui sommes à foi et partage, on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Le deuxième exemple que vous connaissez bien, c'est le fils perdu. Celui qui a demandé à son père de lui donner l'héritage. Quand le père a donné l'héritage à ses deux fils, il s'est dépêché aussitôt d'aller tout dépenser dans une vie de désordre, à un point tel qu'il s'est ramassé dans la grande misère. Il a réussi à se trouver un travail, garder les porcs. Mais pour un juif, garder les porcs dans un clos avec les porcs, c'est pas ce qu'il y a de plus honorable. Et il s'est retrouvé dans une situation désespérée par sa faute. Et probablement qu'il s'est dit lui aussi, dans quel bateau je me suis embarqué. Il y a eu une petite flamme qui s'est allumée en lui, le souvenir de ce qui se passait chez son père. Et alors, il s'est dit, je vais retourner chez mon père. Je vais simplement lui dire, regarde, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je vais arriver là, bien sûr, je ne sentirai pas bon, je vais être vers la magané. Alors, il va comprendre facilement que je ne suis vraiment pas digne d'être appelé son fils. Et je vais simplement lui demander, donne-moi du travail dans les champs avec tes serviteurs et ça va être parfait. Et vous connaissez le reste de l'histoire. quand le fils perdu s'est mis en marche, il a répondu à l'appel d'avancer en eau profonde. Il ne saurait pas juste comment il serait accueilli, parce qu'il se rendait bien compte, son père aurait pu lui dire en toute vérité, « Regarde, pense-y un peu, là. Tu m'as demandé mon héritage. » L'héritage, ça, c'est ce qu'on reçoit. Quand la personne qui nous fait hériter est décédée, on ne reçoit pas un héritage d'une personne qui est encore vivante. On va recevoir un don, on va recevoir un prêt, mais pas l'héritage. Et là, mon cher fils, tu as demandé mon héritage, ça veut dire que tu me considères comme mort, ne faisant plus partie de ta vie. Eh bien voilà, je suis mort. Point. Le fils a certainement pensé quelque chose de même. Mon père aura raison de me rejeter. Et quand il arrive auprès du père, ce qu'il fait, il commence sa confession. « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et tout de suite, il y a eu l'absolution. Son père l'a pris dans ses bras, l'a serré, et vous connaissez la histoire, donnez-lui un bon bain, donnez-lui à manger, tout ce qu'il faut, le vêtement de noces, on fait la fête. Mon fils était perdu, il l'a retrouvé, il était mort, il revenait à la vie. La confiance que le père fait dans son fils, l'amour qu'il lui manifeste, ça vient combler l'espérance du fils perdu retrouvé. Ces exemples qu'on retrouve dans la Bible sont là pour nous aider. Et c'est de cette façon-là que lorsque nous sommes dans différentes épreuves, le Seigneur trouve le moyen de nous remettre dans l'espérance, de nous faire comprendre que quoi qu'il advienne, on va arriver à quelque chose de bien. On va arriver à quelque chose qui va nous faire vivre. Et ce qui nourrit l'espérance, c'est l'amour. Dans la revue des missions étrangères, il y avait une revue, un numéro, c'est « Témoins de l'espérance au Québec ». Il y a 4-5 lignes qui m'ont rejoint et qui peuvent nous faire du bien à nous autres ici. Témoins de l'espérance, nous le sommes d'abord par ce que nous avons vu, senti, touché, goûté et entendu de la présence du Christ et de son Esprit dans la vie des gens que nous rencontrons et auxquels nous sommes présents. La présence à l'autre dans le besoin, parce que nous l'aimons, nourrit son espérance. Quand on est dans le besoin et qu'on ne voit pas qui pourrait nous aider, on vit dans la solitude et on est porté à désespérer. Qui vous voulez qui m'aide, moi? Arrive un bon samaritain ou une bonne samaritaine qui m'aide, et à ce moment-là, tout change. Au lieu de désespérer, j'espère, je reprends le goût à la vie, parce que quelqu'un m'a manifesté de l'amour, de la tendresse, de l'affection. L'amour, ça nourrit l'espérance. La confiance dans la parole de quelqu'un, ça nourrit l'espérance. C'est pour cette raison qu'on retrouve les trois vertus théologales ensemble. La foi, l'espérance et la charité. L'espérance est au centre, c'est pas pour rien. C'est pas juste parce que c'est un hasard. Moi, en tout cas, je n'y vois pas un hasard. Si ça avait été par lettre alphabétique en français, on aurait eu la charité, l'espérance et la foi. Mais là, c'est la foi et l'espérance et la charité. L'espérance, on la garde aussi longtemps qu'on fait confiance dans la parole de quelqu'un. L'espérance en Dieu, on la garde quand on fait confiance à la parole de Dieu. Et avoir confiance en quelqu'un, c'est avoir la foi en cette personne. Avoir confiance en Dieu, c'est avoir la foi en lui. Quand on croit à quelqu'un, on dit qu'on met notre foi, notre confiance en lui. C'est un peu pour cela que je vois que la foi a été placée en premier. La foi, c'est la confiance en Dieu qui soutient l'espérance. L'amour est placé après l'espérance. Pas parce que ça vient après, mais c'est parce que quand il n'y a presque plus d'espérance, c'est l'amour, comme je vous le disais il y a quelques minutes, qui le fait grandir, qui nourrit l'espérance. Et quand l'espérance devient un peu vacillante, parce qu'on se demande au juste qu'est-ce qui va se passer, ce que l'on espérait, ça semble maintenant ne plus pouvoir exister, l'amour qui est manifesté, la tendresse qui nous est manifestée à ce moment-là, ravive l'espérance, nourrit l'espérance. C'est donc, pour moi, pas un hasard si les trois vertus théologales sont placées de cette manière-là. Et quand on dit vertus théologales, c'est des vertus qui sont proches, qui nous viennent des forces, qui nous viennent de Dieu. C'est un peu ce que j'avais à vous dire ce matin. Je terminerai par une conclusion. C'est bien, hein? Terminer par une conclusion. Cette conclusion-là, c'est un texte que j'ai rédigé pour la revue de la Fraternité de l'Épi, Visitation. Il y a deux semaines, on m'a demandé d'écrire un texte. Je n'ai pas le temps, toute mon énergie va au complet, totalement, pour soi et partage. Je n'ai pas le temps. Moi, ce qui m'arrive souvent, je ne vais pas vous conter ma vie personnelle, mais des fois, je me réveille à 4h, 5h du matin, et là, j'ai des idées. Si je ne me lève pas pour aller les écrire, quand je me réveille 2 heures plus tard, il n'y a plus rien. Je ne m'en rappelle plus. Et ce matin-là, je me suis réveillé à 5h, et j'avais en tête l'article pour visitation. Et, comme par hasard, je n'y crois pas que c'est du hasard quand même, c'était sur l'espérance. J'ai envie de vous le lire. J'ai écrit cet article-là dans une demi-heure. Ça allait vite. J'ai eu un peu de misère à m'en lire à 8h le lendemain, mais là, je n'aurais pas de misère. Je vous dis ça en gros. Dans le monde où nous vivons, il y a une phrase de saint Paul qui peut nous questionner. Espérer contre toute espérance. Comment espérer contre toute espérance face aux terreurs de ce qui se passe en Syrie? Comment espérer encore que le monde va arriver à quelque chose de bon? Comment espérer contre toute espérance face aux tueries à Washington ces jours derniers et un peu partout dans le monde? Face à certains traitements accordés, non pas aux populations très loin du Canada et du Québec, mais aux populations autochtones du Canada et du Québec. Comment espérer encore? Comment être dans l'espérance face aux questions économiques qui heurtent les pauvres dans notre société? Comment espérer contre toute espérance quand des gens se font couper dans le bien-être social, se font couper leurs 533 ou 563 par mois parce qu'ils ne répondent pas aux critères? Comment espérer encore? Qu'est-ce que l'espérance nous apporte comme aide à mieux vivre? Ça ne vous ennuie pas si je le dis comme ça? Ça va? Quels sont ceux qui dorment? Tout d'abord, l'espérance n'est pas une vertu qui nous permettrait de nous envoler au ciel, à l'abri des questions d'ici-bas. Dire, faut espérer au ciel, ça va aller mieux, puis après notre mort, ça va aller mieux. Donc, non. C'est pas ça l'espérance. C'est pas attendre une vie meilleure uniquement après la mort. C'est aujourd'hui, en fait, qu'on a besoin d'espérer. C'est aujourd'hui qu'il faut avoir de l'espérance. C'est pas quand on va être scié sous terre, dans une grosse boîte ou dans une petite boîte, selon. L'espérance, comme on l'a vu dans le dictionnaire, c'est espérer ce que l'on désire, c'est attendre ce que l'on désire. D'où l'importance de bien clarifier nos désirs. Qu'est-ce que je désire, moi, juste dans le monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je désire pour que ça aille mieux dans ma vie. C'est important de se le dire et de le trouver. Parce que l'espérance va s'appuyer là-dessus. L'espérance qui peut produire des fruits dans ma vie, c'est l'espérance que moi, je peux alimenter. Parce que l'espérance, c'est une force qui nous pousse, c'est une force qui nous motive, c'est une force qui nous invite à avancer. Quand Jésus a dit à Pierre, « Avance en eau profonde », Pierre a avancé, il a dit à Jésus, « Oui, c'est bien beau, mais on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, je vais avancer. » Parce que Pierre, finalement, espérait bien prendre du poisson. L'espérance, c'est ce qui nous motive à agir, à aller de l'avant. Quand il n'y a plus d'espérance, ça arrête. L'espérance, c'est comme quelque chose qui nous invite à marcher, à avancer, à aller plus loin. L'espérance chrétienne, elle nous aide à nous situer dans notre vie parce qu'elle est fondée sur la certitude qui nous vient de Jésus. S'il y en a un qui a vécu des situations désespérantes, c'est bien Jésus. Quand on regarde sa vie, il avait toutes les raisons de désespérer. Il se choisit 12 gars, 12 apôtres, pour fonctionner avec lui pendant 3 ans, afin qu'il puisse prendre la relève. 3 ans. Il fait des signes qui manifestent qu'il est vraiment plus un grand prophète. Il leur parle en particulier, il parle au peuple à leur présence, et il arrive au dernier repas. Et là, pas au dernier repas, mais à la veille de rentrer à Jérusalem, et là, on discute, et pas n'importe lequel, Jacques et Jean, discutent entre eux pour savoir quand là, le royaume va arriver, le royaume dont nous parle Jésus, qui, d'après toi, va être à sa droite, à sa gauche? Moi, j'aimerais bien ça que ça soit nos deux, un à droite, un à gauche. Il y a de quoi désespérer. Ça faisait 3 ans qu'il était avec eux autres, qu'il leur avait parlé du royaume, et ils n'avaient rien compris. Jésus est obligé de leur dire, le royaume dont je vous parle, c'est pas le royaume ici-bas, c'est le royaume de Dieu, qui se bâtit non pas sur le pouvoir, non pas sur les honneurs, mais sur le service. Quand est-ce que vous allez comprendre? Quand Jésus se retrouve au dernier repas, c'est la même chose. Il leur lave les pieds. Nous savons, nous, toute l'importance de ce rite sacramentel. Il leur lave les pieds. Et là, Pierre dit, non, non, pas moi, pas moi. Jésus est obligé d'insister pour lui faire comprendre que lui, Jésus, il veut leur donner un exemple d'être au service des autres. Et quand il voit la façon dont les apôtres se comportent, il y a de quoi désespérer. Rendu sur la croix, Jésus a vécu une forme de désespoir. Quand il a repris le psaume 21 en disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » On ne peut pas se dire « Jésus disait ça, mais il voulait dire d'autres choses. » Si Jésus avait voulu dire d'autres choses, il aurait dit autre chose. Quand Jésus a parlé, comme on le voit dans les évangiles, ben il dit ce qu'il veut dire. Il ne dit pas autre chose que ce qu'il voudrait dire. Quand Jésus, sur la croix, dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est que Jésus s'est senti dans une situation de désespoir. Et ce désespoir-là, il l'exprimait à partir du psaume 21. Ça n'a pas pris de temps que Jésus s'est rattrapé, parce que le psaume 21, si vous le lisez au complet, vous voyez qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui change. C'est un psaume prophétique. Et l'espérance revient. L'espérance revient de sorte que, à la fin, ce qui est exprimé, c'est l'espérance en Dieu qui sauve le juste de toute désespérance, de toutes ses épreuves. Mais quand Jésus dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est pour nous autres qu'il dit ça. Parce qu'il y a bien des fois dans notre vie où c'est ça qu'on dit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi as-tu fait que j'ai telle maladie? Pourquoi fais-tu que dans ma vie, je n'ai pas de personne qui peut s'occuper de moi? Pourquoi tu fais que dans ma vie, je sois rivé à un fauteuil roulant? Pourquoi tu fais dans ma vie que j'ai tel problème d'alcoolisme, que j'ai tel problème dans ma sexualité? Pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand on dit ça, on ne blasphème pas. On est en communion avec la parole de Jésus sur la croix. Et c'est là que l'espérance revient. Parce qu'après la croix, il y a eu la résurrection. Et de la même façon, pour nous autres, après nos croix, il y a la résurrection. Et des fois, je me dis presque toujours, la résurrection qui commence dès ici-bas. Parce que nos vies prennent des directions qu'on ne soupçonnait pas. Nos vies prennent des sens, des significations qu'on ne soupçonnait pas. Et quand on prend le temps de regarder chacune de nos existences, on se rend compte que ce que l'on avait imaginé à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, ça ne s'est pas réalisé comme on le pensait. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ses chemins ne sont pas nos chemins, prophète Isaïe. Mais toujours, le Seigneur sait nous guider sur des voies, sur des chemins qui débouchent sur la vie. Et c'est cela l'espérance. C'est avoir la certitude que quoi qu'il advienne, le Seigneur notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours là. Il sera toujours là comme il l'a été pour Noé. Noé, ça a été une espérance, Noé, l'espérance de Noé. Mais ça a été aussi l'espérance de tout le peuple qui a commencé par sortir de l'arche et former un grand peuple. L'espérance d'Abraham, elle a été mise à l'épreuve, mais ça l'a conduit à la vie. Et il a été le père d'une multitude, de sorte que nous sommes, nous, les fils d'Abraham, par notre foi. La foi qu'Abraham a eue, c'est la même que nous avons en Dieu. L'espérance de Moïse, elle n'a pas été déçue, quoi qu'il advienne, et ça l'a mené le peuple à plus de vie. C'est ce que le Seigneur nous propose aujourd'hui, quand il nous dit, quoi qu'il advienne, aie confiance en moi, je ne t'abandonnerai jamais. Tu peux espérer, contre toute espérance, l'objet de ton désir, la vie, t'est destinée à toi. Et je terminerai par le texte de saint Paul qui nous est proposé. Mais je le prends un peu plus haut. Je commence quelques versets auparavant. Ce sera la fin de notre rencontre parce que cette parole de Dieu, elle est vraiment nourriture pour nous aujourd'hui. Romains 8, 18, 25. J'estime en effet, nous dit saint Paul, que ce que nous souffrons dans le temps présent, tout ce que nous souffrons dans le temps présent, ne peut pas se comparer à la gloire que Dieu nous révélera. C'est-à-dire, toutes nos misères, nos souffrances, nos détresses, c'est rien quand on compare à ce que Dieu va nous faire comprendre de ça. Moi, j'ai accompagné des gens, j'étais ami avec des gens à l'UPI, là, qui était mal équipé, si on veut. Et il y en a un, entre autres, Raymond. Raymond, qui à tout bout de champ, me demandait, il m'appelait Padre. Padre, tu penses-tu que moi, je vais aller au ciel? Et je disais, pourquoi, Raymond, tu demandes ça? Mais tu sais la vie que je mène. Tu mènes cette vie-là, d'autres mènent d'autres vies. Alors, pour moi, j'irai pas au ciel. Je dis, Raymond, quand tu vas quitter cette terre, la plus belle surprise que tu vas avoir, c'est que la porte en haut va déjà être ouverte. Ton nom va être écrit dessus, Raymond. Et quand tu vas passer la porte, le Seigneur Dieu va dire, « Mon Raymond, viens-t'en avec moi, je t'aime depuis toujours. » Et là, ça je ne lui ai pas dit parce qu'il n'est pas capable de le prendre, mais c'est ma certitude. Lui, comme tous les autres qui nous précèdent, Raymond, à ce moment-là, il a compris tout le sens de sa vie. Il a compris la signification des misères qu'il subissait dans son corps, dans son esprit, dans son cœur. Et il a compris à ce moment-là, parce qu'il est décédé, il a compris que tout ce qu'il vivait c'était rien en comparaison de ce qui se passait maintenant auprès du Père qui m'a aimé de toute éternité. C'est ce que ça veut dire. Nous souffrons, ce que nous souffrons dans le temps présent ne peut se comparer à la gloire que Dieu nous révélera. Car le monde entier, je continue la lecture, attend avec impatience le moment où Dieu révélera à ses fils, révélera ses fils. Le monde est tombé sur le pouvoir de ce qui est inutile. Tout ce qui est consommation, tout ce qui est bebelle, et plus l'économie est fondée là-dessus. On produit, mais il faut acheter, puis après ça, il faut jeter. Le monde est tombé sous le pouvoir de ce qui est inutile. Il y a toutefois une espérance. C'est que le monde lui-même sera libéré du pouvoir destructeur qui le tient en esclavage. Et il aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que le monde entier gémit et souffre comme une femme qui accouche. Mais pas seulement le monde. Nous aussi qui avons déjà l'Esprit, qui l'avons reçu comme la première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement, en attendant que Dieu fasse de nous ses fils et délivre entièrement notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. L'espérance que nous avons, c'est que dans notre corps, dans tout notre être, on va être libéré, guéri, délivré. Et voici la parole qui est désignée spécialement pour aujourd'hui. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, avec patience. C'est le don que le Seigneur nous fait. Et en bref, patience, persévérance, action concrète en communion avec les autres, dans l'amour, dans la tendresse, voilà les trois sœurs de la famille Espérance.